Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une artiste mythique de la chanson française, la blonde la plus sensuelle des années yéyé, celle qui fait partie de notre vie depuis les années 60. Wow. Une petite fille venue de Bulgarie qui a formé le couple le plus emblématique du rock français. Cette grande dame blonde qui nous fait l'honneur de sa présence est Madame Sylvie Vartan.
Wow. Bonjour, bonjour.
Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour, bonjour à tous.
Je suis très impressionnée de vous recevoir.
Non, mais c'est gentil, merci. Je suis contente d'être là.
Vous n'êtes pas impressionnée?
Ah ben non. Je vous écoute, je sais comment se passe l'émission. Je connais la bonne humeur de chacun, chacune.
Vous nous écoutez?
Ben oui, ça m'arrive.
Oh, bah chouette. C'est sympa. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent.
Faites attention à ce que vous dites alors. Hein.
Non, c'est pas vrai. On a un public de qualité. Ouais. Voilà. Exactement.
Voilà. Non, mais Sylvie Vartan, c'est vrai que vous êtes impressionnante quand même. Vous ne vous rendez pas compte? Vous êtes Moi, vous m'impressionnez.
Ben non.
Vous avez quand même un certain... Vous voyez,
ça s'appelle la grâce.
Allez-y, un certain quoi.
Hein. Une allure comme ça, un pied, vous voyez, une tenue.
Ah ben ça je ne sais pas, hein. je ne m'observe pas à longueur de journée, je suis comme je suis moi-même.
Vous savez que quand j'étais adolescente, vous aviez sorti un livre en livre de poche, qui s'appelait Sylvie Vartan Beauty Book.
Ah oui, oui, oui.
Et je l'avais lu, je l'avais stabilo-bossé, c'est vrai. Parce que je voulais être aussi jolie que vous, et alors il y avait des conseils, il fallait faire de la gym tous les jours.
Et donc ouais. Tu n'as rien suivi.
Ça c'était avant.
Vous n'avez pas lu jusqu'au bout le livre.
Il avait bien marché ce livre d'ailleurs.
Ah oui, oui, c'était un des premiers dans le genre.
Oui, c'est ça. Ouais, qui expliquait aux gens comment il fallait faire.
Ouais,
se maquiller.
Moi, ça m'amusait de le faire, oui, oui.
C'était
évidemment, forcément, on a des trucs quand on doit toujours quand même être présentable, n'est-ce pas? Bon, on a toujours des trucs. Avec le temps, ça, on apprend.
Vous étiez avant-gardiste, en fait, c'était un tuto des années 70, quoi. Non, c'est vrai?
Bah oui, sans le vouloir,
ouais, ouais.
Par la force des choses.
C'est quoi vos trucs, Sylvie Vartan, maintenant, pour être toujours présentable, bien?
Je sais pas, j'ai une hygiène de vie quand même. Enfin...
D'où vient ce doute?
Je devrais suivre le beauty book un peu plus. Mais bon, mais il faut se laisser vivre.
Ah ouais, voilà, c'est sûr.
Vous faites comme voilà. J'aime.
Vous aviez une hygiène de vie dans l'ensemble et des petits moments de lâchage?
Ah, oui, des petits moments, oui. Oui.
Parce que par exemple,
quand je suis en tournée comme en ce moment, je ne mange pas de la journée parce que je ne peux pas, parce que je suis excitée. Et voilà, je pense à la
moi,
soirée.
Quand je suis excitée,
et
je mange.
En fait, me lâche après le spectacle.
Ah.
Parce que comme je suis toujours sous la
pression.
Sous la pression, je ne peux pas dormir tout de suite et c'est quand même tard le soir. Et là, franchement, tout est fini, on est tranquille, on est entre amis et tout ça.
Mais ça veut dire quoi, je me lâche? Bonne bouffe, on boit, on mange, on profite.
On doit surtout pas faire ça, quoi, en fait.
Ouais. Ah bah une
c'est très mauvais de manger le soir.
Heures, c'est bien.
Non,
ouais,
quand même
c'est
pas,
bien.
Non, je vais pas jusque-là. Mais
vous mangez quoi le soir, Sylvie Vartan, alors? Après le spectacle, quand vous vous lâchez?
Bah, ce dont j'ai envie, hein. Pas
des frites, des trucs comme ça?
Des frites, je sais pas. Parce que aussi chanter, ça nourrit, d'une certaine manière. Donc, en fait, quand je suis en tournée, ça me fait du bien. Parce que je retrouve mon rythme. C'est quand je reste un mois, deux mois sans rien faire que tout d'un coup, je n'ai plus envie de faire ce que le beauty book conseille du tout. Voilà.
Et le sport, vous arrivez à vous...
Ah non, le sport.
Mais enfin, de quoi tu parles?
Non, mais j'essaye quand même. Parce qu'en fait,
j'ai l'habitude de faire... Dans le beauty book, il y avait des exercices avec des schémas.
Ce n'est pas du sport. Comme j'ai fait pendant 30 ans des spectacles... de grande envergure, en deux parties, avec des danseurs, avec 6 tableaux, une manière très théâtrale, que je me chante, j'ai 12 fois dans la journée. C'est vrai que j'ai fait ça pendant très très longtemps.
C'était physique.
J'adorais faire ça, en fait. Et je répétais pendant des semaines et des semaines pour préparer un spectacle. Donc je répétais 5 mois... en tout, et 5 semaines avec les danseurs, enfin, et ça, c'est du sport, en fait. Mais du sport, on le sent pas passer comme tel, parce que, en fait, c'est la musique, c'est une chorégraphie, c'est le partage avec les danseurs, on vit avec une troupe, c'est passionnant, donc ça passe comme une lettre à la poste, hein, c'est pas du sport.
Alors
mais enfin, le sport, comme ça, là, maintenant, faire des exercices, c'est vrai que ça me... saoule un peu, quoi.
Pareil.
Mais bon.
Pareil. Ça, c'est rassurant.
Je préfère boire un bon verre de Bordeaux que...
Ouais, vous avez raison.
Il Vous avez un début de carrière absolument fulgurant quand on regarde vos biographies. Ah, tout de suite, ça a été incroyable. Quoi.
Incroyable.
Je ne sais pas quel âge, vous chantiez déjà devant la reine d'Angleterre. Vous êtes vos premiers disques. C'était...
Ah bah, j'avais quoi ? J'avais 17 ans, oui.
Comment c'est votre destin, en fait, que ce soit passé comme ça ? Vous y réfléchissez
parfois ?
Ah, ça,
c'est certainement mon destin, oui, c'est sûr.
C'est un destin hors du commun, quand même.
Ah, ça, hors du commun dès le départ.
Vous avez quand même
fait
la première partie des Beatles.
Oui.
Et à l'époque, d'ailleurs, Dominique Bessenard m'a raconté qu'il était fan de vous et il ne s'intéressait pas aux Beatles, c'était venu juste vous voir, vous.
C'est excellent.
Alors, c'est un très bel album que vous sortez, vous reprenez des chansons de Johnny et la couverture est magnifique. C'est une photo que vous aimez beaucoup.
Oh, merci. Merci. Tout le monde me dit ça, je suis ravie. Parce que vraiment, c'est une pochette qui n'est pas du tout conventionnelle.
Ah non,
trouve.
C'est une photo noir et blanc.
Je la voulais comme ça. C'est une photo de Jean-Marie Perrier, comme toutes celles qui sont dans le disque et dans le vinyle aussi.
On vous voit sur scène toute jeune avec un micro devant vous et on voit l'ombre de Johnny derrière le rideau.
Ouais. Et derrière, c'est fou parce qu'il y a l'ombre.
Tous les deux à la plage
aussi
de dos.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup les photos de dos, en fait. Non, ça a un côté romantique. Non, j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait, elle est vraie, elle n'est pas posée, elle est nature.
Instant,
et puis, elle reflète
photo,
exactement mon état d'esprit.
Vous avez une grande histoire d'amour avec Johnny. Après, vous avez rencontré un autre homme avec qui vous êtes depuis 34 ans.
Ah oui, oui.
Très
oui.
Heureuse, Tony Scotti.
Oui.
Là,
oui.
C'était un coup de foudre.
Mais j'ai eu une chance folle de connaître deux hommes exceptionnels, en fait. C'est vraiment une chance inouïe.
Très différent.
Oui, mais enfin, la musique cimente aussi beaucoup la passion que j'ai eue pour l'un, comme j'ai pour celui-ci, le dernier. Parce qu'on travaille ensemble, on aime les mêmes choses, on aime la même musique, les mêmes gens. Enfin, moi, je pense que pour qu'un amour soit réussi, il faut aimer les mêmes choses. On ne peut pas lutter constamment.
Vous n'auriez pas pu être avec quelqu'un qui ne fait pas du tout de la musique,
non,
par exemple ?
Non. Mais j'avais mis une croix. Hein,
ouais.
Oui, non, je me dis jamais, je vais trouver quelqu'un.
Ah oui, après Johnny, vous étiez dit,
non,
c'est
oui,
fini.
Oui, non,
ah
ouais.
Vous aviez
fini.
38 ans, vous étiez jeune.
Oui, ah bah non, moi je pensais que j'étais déjà assez vieille. Déjà à 7 ans, pensais que je connaissais...
La vie.
La vie. Ah bah oui, je la connaissais quand même. Oui, je la connaissais.
Pourquoi ? À cause de ce que vous avez vécu, l'exil ?
Ah bah oui. J'ai vraiment... Ma vie est un roman, hein, c'est vrai. Quand je regarde en arrière, je me dis... Quand même, c'est une histoire. Quoi. C'est un...
Vous avez quitté la Bulgarie, vous avez cette image de votre grand-père sur le quai qui dit au revoir en pleurant. Et là, vous sentez que c'est la dernière fois que vous le voyez.
Oui, j'ai compris. Quoi.
Et là, vous dites à partir de ce jour-là, la vie n'a plus jamais été la même.
Non.
Il y a une maturité, une conscience de la gravité des choses.
Enfin, ça avait commencé déjà un petit peu avant, parce qu'évidemment, on avait une vie extrêmement difficile. C'était le communisme extrême en Bulgarie, et avec tout ce que ça comporte de difficultés pour les gens, le peuple, la main de fer, quoi. C'était impossible.
C'est ça qui vous a donné une force, Sylvie Vartan, pour affronter tout le reste, cette enfance où il y a eu beaucoup d'amour à la fois et puis des péripéties.
C'est sûr, parce que j'avais eu des parents exceptionnels. Ça aussi, ça aide quand même pour se construire et se structurer avec un exemple comme eux. Je veux dire, c'est... Voilà,
vous dites que votre père qui rêvait de faire de la sculpture, d'avoir le prix de Rome, il s'est retrouvé tripier à Paris.
Non, pas tripier, il était à comptable, mais je veux dire, c'est un artiste accompli. Hein. Dans une, oui, au Hall.
Ouais.
Donc il se levait tous les matins, il y a 1h du matin, il partait, et puis il rentrait à 6h, il faisait la réception des marchandises, puis il rentrait, puis il dormait quelques heures, puis il repartait au bureau. Alors du coup. Et voilà, c'était une vie de sacrifice. C'est ça le travail. Alors je sais le prix du travail. Mes parents n'avaient pas besoin de nous l'expliquer, quoi.
Vous l'avez vu.
On le voyait, on vivait.
Ils ont été fiers de votre réussite, j'imagine.
Ah oui, moi je me moquais un peu de mon père, je le regrette, parce qu'il collectionnait mes photos, il les coupait, il les découpait. C'était mignon, en fait. Moi, je fais la même chose avec mes enfants. Je me moquais gentiment de lui. Mais lui, c'était sa revanche, quelque part. Ouais, parce que je suis devenue artiste et puis il était fier de moi. Moi, j'avais un peu honte, j'étais timide, je ne voulais pas trop. Mais lui, vraiment, c'était son bonheur.
Vous étiez sa réussite, en quelque sorte.
Ouais.
Comment on dit on se retrouve dans quelques instants en bulgare ?
Je sais, vidi mes packs, nekoliko minuti.
Eh bien, voilà. Ça a dû être dur de choisir les titres que vous préfériez ?
Eh bien, oui et non. Parce qu'en fait, les titres se sont imposés d'eux-mêmes. déjà dans l'hommage que je lui rends sur scène depuis le printemps dernier, je chante certaines des chansons, évidemment. Mais j'ai rajouté des chansons qui racontaient mon histoire aussi en même temps, parce que c'était notre histoire. Ces chansons étaient mon histoire et mes chansons étaient la sienne aussi.
J'ai appris alors que Je t'aime, c'était une chanson qu'il a faite pour vous reconquérir.
Oui, pareil. Mais sur le moment, ça ne m'avait pas percuté. En fait, c'est Gilles Thibault qui m'a révélé.
Et vous dites que c'est difficile de résister à une chanson pareille quand même.
Oui, c'est comme quand on vous écrit...
Ne me quitte pas.
Ah ouais, c'est pareil.
Moi, m'écrit va-t'en, je comprends pas.
Non, ça m'étonnerait.
On écoute.
Wow. C'est vrai, on entend
c'est
vos deux
voix.
Ouais. Magnifique.
Sylvie Vartan, je vous présente Ben H qui a des choses à vous dire.
Oui, Sylvie Vartan, bonjour.
Bonjour.
Et je pensais jamais dire ces trois mots dans l'ordre un jour dans ma vie. Ah, c'est quand même trop classe de dire Sylvie Vartan, bonjour. Permettez-moi de vous révéler que la dernière fois que j'ai été autant impressionné devant une femme, j'étais nu et j'avais 16 ans. À ce moment-là, comme maintenant, point commun, je ne suis pas prêt face à l'ampleur de l'événement. Oui, Sylvie Vartan, je suis aussi à l'aise face à vous ce midi que le serait un membre du gouvernement sur les Champs-Élysées par un samedi décembre et pour cause. Et pour cause même pour le petit ignare que je suis abreuvé par le R&B débile de ma génération et les starlettes de passage ayant autant de charme dans la voix que de tissu sur les fesses. Même pour moi, Sylvie Vartan, ça veut dire quelque chose d'immense. J'ai conscience de rencontrer ce midi une star internationale à la carrière qui a traversé plusieurs générations, qui a chanté dans toutes les langues, dans tous les pays. Anne, vous avez joué en Uruguay, vous ?
Non.
Et ben voilà. Sylvie Vartan, elle l'a fait. Et un nombre de tubes incalculables et comme si une carrière incroyable n'était pas suffisante. Fromage plus dessert, ajoutez à votre vie une histoire d'amour devenue légendaire sur papier glacé et tout ça depuis l'âge où moi je connaissais donc ma première émotion évoquée auparavant. Mais je dois reconnaître que ce tableau parfait que j'esquisse de vous est entaché par une ombre que je ne saurais vous cacher. C'est à cause de gens comme vous, Sylvie Vartan, que j'ai l'impression d'être né beaucoup trop tard. Parce que oui, moi aussi j'aurais aimé être là au début des années 60 avec toute la bande, la Johnny, Eddie, Carlos et les autres. Moi aussi j'aurais aimé taquiner du rock'n'roll avec vous. Moi aussi j'aurais aimé arriver dans les surprises parties. Dire salut les copains aux gens les plus cools de tout le 20e siècle. Moi aussi, j'aurais aimé passer des semaines à Nashville, yeah! Même si, pour tout vous dire, je sais même pas où est Nashville. Bref, oui, j'aurais aimé être là dans cette époque qui a créé tant de légendes, dont la vôtre, Sylvie Vartan. Aujourd'hui, il faut croire qu'on n'en crée plus tant que ça, des légendes. Mais je crois qu'on peut vivre chacun des petits moments de légende. Et dans ma vie, celui qui vient de passer entre nous en sera un. Merci de m'avoir écouté, Madame
Vartan. Oh là là! On pourrait toujours aller à Nashville aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, elle va découvrir le monde.
Avec vous ? Oui.
Allez.
Je vais faire un troisième album à Nashville. On ne dit jamais 203, pourquoi pas ?
Ah ouais, c'est vrai.
Quel genre de grand-mère vous êtes pour vos petits-enfants ?
Oh bah, je suis rock'n'roll hein, quand même.
C'est-à-dire ?
Ils doivent se dire, c'est bizarre, mais ils ont toujours vécu comme ça. Ouais. Aussi, je veux dire, dans cette ambiance musicale. Que ce soit mon fils ou mes petits-enfants, je veux dire, on leur cache pas, je veux dire, mais en même temps, on n'en fait pas des tonnes à la maison, on a des vies normales, enfin, on essaye. Et puis, non, on est très unis et bon, les valeurs se passent de parents à enfants.
C'est quoi la valeur la plus importante pour vous, Sylvie Vartan, dans la vie ?
Oh, ben, le respect, hein, quand même. Le respect des choses, des gens, ça passe partout. Et l'amour, évidemment.
Le respect, l'amour.
C'est normal.
Vous êtes surprise, Sylvie Vartan, de la trace qu'a laissée Johnny Hallyday dans le cœur des gens ? Parce que l'album la cartonne, il y a un engouement qui se
passe. Bah oui, je connais l'engouement, je sais, mais à ce point-là, non.
Vous ne pensiez pas à ce point-là ? C'est irrationnel, quelque part.
Oui, mais rien n'est rationnel dans la vie, en fait.
Dans la vôtre, déjà, oui.
Dans la mienne. Ah oui, dans la mienne, de toute façon, c'est vrai.
Léa Landau a quelques questions à vous poser, Sylvie Vartan.
Oui, Sylvie Vartan, alors... Vous savez, on a un jeu dans cette émission où on doit faire deviner à des auditeurs des personnalités qui ont marqué la semaine, souvent. Et quand on doit faire deviner votre nom, c'est vrai que la première chose qu'on dit pour qu'ils trouvent rapidement, on dit la première femme de Johnny. Et à l'inverse, on pourrait dire, pour faire deviner Johnny Hallyday, le premier mari de Sylvie Vartan. J'ai donc décidé de vous faire une interview Johnny Vartan.
Ah voilà. Bon. J'espère que je pourrai répondre.
Ouais. Hein. Si, si. J'utilise les paroles des chansons que vous avez reprises de lui dans votre album Avec toi pour vous poser des questions. Alors, Sylvie Vartan, dans 100%, Johnny chante « J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. » C'était quoi vos rêves d'enfant à vous, Sylvie Vartan?
Bah, de devenir artiste.
Ouais.
Ouais.
Donc, rêve réalisé, largement.
Ah oui. Ouais, ouais, ouais.
Dans Je te promets, Johnny dit « Je te promets une histoire différente des autres, j'ai tant besoin d'y croire encore ». Elle était vraiment si différente des autres, votre histoire avec Johnny?
Ah oui.
Et en reprenant ses chansons, c'est parce que vous avez besoin d'y croire encore?
Mais j'ai toujours cru, je veux dire, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Elle a été ce qu'elle a été, elle demeure. Je veux dire, c'est des années importantes et des années dorées. En dépit de tous les passages ouais, un peu plus gris, je dirais, parce que ça existe dans toute vie, dans tout couple. Mais je veux dire, on avait une histoire complètement folle.
Bah ouais, ouais.
Mais ah ouais.
Alors d'ailleurs,
rouge
c'est...
et or, je dirais.
Alors vous parlez de doré, c'est drôle, parce que alors, dans Le Mirador ou Le Pénitencier, il évoque la prison dans ces deux chansons. Est-ce que la célébrité, à son niveau et à votre niveau, vous diriez que c'était une cage dorée, Sylvie Vartan?
Par moments, ça l'est. Mais enfin bon... Il y a tellement de choses beaucoup plus graves dans la vie que, ouais. Bon, la cage, on a la clé quand même. Hein.
Ouais. Alors, dans Que je t'aime, il y allait quand même, Johnny, parce que moi, j'ai besoin d'une explication texte.
Oh là, je ne vais pas m'aventurer sur ces chemins-là.
Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes. Moi, j'ai une vision 50 nuances de grès. J'adore.
Oui, oui, oui. Ah oui, c'était osé.
C'était
oui.
Tumultueux. Alors moi, il y a une des paroles que j'aime le plus, c'est dans Vivre pour le meilleur. Johnny a dit « Vivre pour le meilleur, debout, pour tout se donner, plus riche de ne rien garder que l'amour. » Tout est dit.
Ben voilà, tout est dit. Ouais. Ouais, c'est une très belle chanson. Mmh. J'aime beaucoup, elle est wagnérienne, cette chanson-là. Ouais. Elle a un arrangement génial. Elle est, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, à la chanter.
Merci Sylvie Vartan.
Merci.
Sylvie Vartan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent?
Qu'on aille à Nashville tous les deux déjà.
Ah bah voilà, ouais, ça c'est un, oui, un rendez-vous, oui.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Sylvie Vartan?
Oh, ils sont vraiment très touchants. Honnêtement, je sais pas, ils ont des sourires, ils me disent merci. Vraiment, c'est. Mais vous savez, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec tous ces gens-là. Même si le public, c'est un mot qui englobe toutes sortes de gens, mais quelque part, j'ai l'impression que j'ai partagé ma vie, même sans le vouloir, quelque part. Bon, par mes chansons, oui, certes, mais aussi du fait que j'ai grandi aux yeux de tous, quoi. C'est une complicité, une amitié, un lien indéfectible. Je veux dire, c'est très touchant. Et c'est avec le temps qui passe qu'on se rend compte que le lien existe et qu'il est touchant. Parce que quand on est jeune et qu'on est bombardé par tout ce qui arrive, c'est vrai qu'on
on
se pose pas, on subit et on essaye de vivre les moments incroyables.
Et maintenant, vous jouissez en fait de cette affection. Bah,
je me rends compte surtout. Je me rends compte et puis j'apprécie et je me dis, mon Dieu, mais quel privilège, voilà.
Il paraît qu'il y a eu un incendie une fois quand vous étiez aux États-Unis.
Ah bah oui, voilà. Nous étions en bas, ma mère, ma cousine, enfin tout ça. Et mon mari était au premier étage et ma Darina a été tout bébé. Et puis la maison a commencé à brûler. Mon mari est descendu en courant en disant « dehors, dehors, dehors ». Tout le monde est sorti. Les pompiers sont arrivés immédiatement, ont commencé à éteindre l'incendie. Et le lendemain matin, c'était horrible de voir toutes ces cendres et toute cette noirceur. Parce que les maisons là-bas sont faites en bois et flambent comme une allumette. Ah ouais. Quoi. En deux secondes, tout était brûlé. Et le lendemain, je vais dans la chambre de ma mère. Et je suis en train, avec des gants, c'était une odeur épouvantable. Et on était en train de regarder entre l'eau qui avait le brûlé, l'odeur, tout ça. Et j'ouvre une boîte. Et la seule chose qui était en couleur, c'était l'ange gardien que j'avais au-dessus de mon lit quand j'étais enfant et que ma mère avait gardé.
Wow.
C'est quand même fou, quoi.
Ah ouais. Vous l'avez toujours?
Ah oui. Ah bah oui. Mmh. Oui, oui. Ouais. Il a été au-dessus des lits de mes enfants. Bien sûr.
Ce midi, à nos côtés, le petit prince du stand-up, le Sherazade comique de la scène française, celui qui rit avec et non pas contre, un rappeur humoriste, à moins que ce soit l'inverse. Ce midi, Kayron est notre invité. Bonjour Kayron.
Ça va ?
C'est un grand jour pour vous aujourd'hui.
Ouais,
c'est votre anniversaire.
C'est surtout la sortie de Mauvaise Herbe.
Oui, c'est la sortie de votre deuxième film aujourd'hui.
Deuxième film, ouais.
On a le trac là ?
Non, je suis très confiant et très heureux et j'ai hâte que le public le découvre et se l'approprie ou pas. Mais j'ai fait de mon mieux, donc j'ai pas de stress à avoir.
Donc vous avez quel âge là maintenant ?
36.
36 ans ! 36 ans. Deuxième film déjà, c'est formidable.
Bon, il y en a qui ont fait mieux quand même, hein.
Ouais, bah moi j'en ai pas fait un seul.
Non, mais vous avez fait combien de spectacles et combien de.
Non, mais je veux dire, c'est quand même bien deuxième film à 36 ans, surtout que le premier a très bien marché.
Ouais, je fais pas par rapport à l'âge. En fait, je préfère avoir peu de choses, mais des choses dont je suis fier. Donc j'ai...
En plus, j'ai vu que vous aviez trouvé l'amour avec une actrice de votre film et j'ai regardé. Je me suis dit, je regardais quelle tête elle a par curiosité. J'ai googlisé.
Enfin,
c'est juste une bombe atomique.
Ça va.
Comment vous... Mais vous rigolez ou quoi ?
C'est Catherine Deneuve.
Mais non, mais elle est sublime.
J'ai réalisé avec Catherine.
Mais elle est sublime.
Ouais, ça va.
Oh bah ça va, attends. Franchement.
Ah, je suis gênée.
Mais vraiment.
Ouais, non, mais elle a d'autres qualités aussi, c'est vrai, ouais, mais très qu'elle est jolie, ouais, très jolie.
Ouais.
On l'embrasse d'ailleurs si elle écoute.
Oui.
C'était voulu que le film sorte en même temps que votre anniversaire.
Oui, j'avais le Mars Film, le distributeur m'avait laissé le choix entre le 14 et le 21. Et comme je fête jamais mon anniversaire, je me suis dit ça va être marrant le 21, comme ça au moins j'aurai. Si
un
ça
bon
se passe
cadeau.
Bien, j'ai un truc à fêter. Et si ça se passe mal,
pourquoi
façon,
vous
fêtez
jamais votre anniversaire, Kayron ?
Bah, en fait, parce que mon père fait les pires cadeaux de tous les temps. Vraiment. Et il m'a dégoûté de ça. Pour mes 15 ans, il m'a offert un bol. Zéro blague. Zéro blague. Un bol. Pour mes 18 ans, mon grand-père m'a offert des cassettes vierges. Et quand j'ai dit pourquoi, il m'a fait parce que tu fais de la musique, tu devrais trouver une utilisation à ces cassettes vierges.
C'est mignon.
J'ai eu que des cadeaux nuls. Donc, du coup, j'ai pas un amour des anniversaires. Mais c'est pas triste, hein, vous êtes tous dégoûtés pour moi, mais ça va, c'est pas grave. Mais du coup, je le fais jamais, c'est un détail en fait.
Mauvaise Herbe, ça n'est pas un film sur une esthéticienne qui part s'installer au Portugal.
Oh,
c'est pas non plus un film sur la marijuana de contrebande. En plus, vous êtes d'origine iranienne, vous savez reconnaître la qualité des produits.
Exactement.
Dans votre film, Kayron traite de la jeunesse qu'on laisse de côté et qui pourtant est une vraie chance pour la société. En fait, c'est un film de science-fiction.
C'est bien, j'aimerais tellement que ce soit pas le cas. Mais oui, effectivement, c'est un film qui parle de seconde chance, d'amour, de rédemption, de bienveillance.
Et alors, vous dites, un des rêves de votre vie, Kayron, ce serait de fonder une école ?
Ouais, après, je peux lâcher le micro et partir que tranquille. C'est, bon. C'est le dernier truc que j'aimerais faire, ouais. Créer une école différente. Pas forcément la créer, mais au moins participer à sa création. Une école différente qui... En fait, on a une chance incroyable. L'école en France est magnifique, mais correspond qu'à un certain genre d'élèves. Et on connaît tous des gens brillants qui n'ont pas trouvé leur place à l'école. Et l'école devrait permettre à chaque enfant de trouver sa place. Donc il faut, je pense, créer d'autres choses, d'autres écoles parallèles.
Alors vous êtes complètement légitime d'écrire un scénario, de réaliser un film là-dessus, parce que vous avez été éducateur dès l'âge de 15 ans, Kayron ?
En fait, j'étais payé au noir. Je faisais croire que dans une association que j'avais le... En fait, j'ai eu une moustache très très tôt. Vraiment très très tôt. C'est mon côté iranien qui
a
pris
le dessus. C'est un truc de dingue. Là. Oui, ouais. Il a le poil dru, on dirait un paillasson.
C'est vrai, très très dru. Ouais, ouais. Là, par exemple, je me suis rasé hier matin.
Ah voilà, ouais.
Ça, c'est un vrai oh de surprise. Mais comment font
il
ces gens ?
Il paraît que vous avez découvert l'épilation laser. D'ailleurs, vous avez acheté un appareil, vous épilez vous-même au laser.
Mais comment vous savez tout ça ? Comment c'est possible ?
Il paraît qu'avant, vous aviez une toison velue partout sur le corps.
Non, mais
et
c'est
maintenant...
abusé, c'est abusé. Non, mais vraiment, dans ma famille, il y a l'oncle de mon grand-père qui a cette pilosité-là, mais tous les autres mâles de ma famille sont normaux.
Ouais.
Et moi, je suis le seul mammifère différent. Non, c'est très, très violent, vraiment. J'ai des poils très, très durs et la peau très sensible. Donc, c'est une combinaison très complexe. Pourquoi on parlait de ça ?
Je sais pas.
On était sur quoi
parce
là-bas ?
Parce que vous avez acheté une machine d'épilation définitive. Et
oui, voilà. Dans la moustache. J'avais une moustache très tôt.
L'éducateur à 15 ans.
L'éducateur à 15 ans,
oui,
payé
et
au
en
noir.
Fait, j'étais bon en informatique quand j'étais petit. Quand ça venait d'arriver, hein, les DOS, MS-DOS, j'étais bon. Après, j'ai lâché l'affaire. Mais à l'époque, donc, je donnais des cours informatiques à des personnes âgées en me faisant passer pour un mec majeur.
Payé au noir.
Payé au noir, ouais.
Et comment vous êtes devenu éducateur alors, Kayron ?
En fait, j'étais déjà humoriste à l'époque. J'avais déjà fait le Comedy Club où j'avais rencontré Mickaël. On s'est rencontré là-bas. Et mon père, qui est très investi à Pierrefitte dans le social, dans les associations, a mis en place un programme pour aider les enfants décrocheurs. Et il m'a dit viens bosser avec moi là-dedans. Toi, t'as un rapport particulier avec eux. En plus, t'as le théâtre, t'as la langue française. T'as déjà bossé avec les gamins. Et puis, ils t'ont identifié par rapport à la télé. Donc, tu pourras peut-être faire des choses cool. Je lui dis papa, c'est gentil, mais moi, je suis Maurice. C'est pas mon truc. Donc, il a insisté. Je suis venu une journée pour rencontrer les gamins. Et je suis resté 4 ans. je suis resté 4 ans et à chaque fois, tous les 6 mois, je repoussais de 6 mois en disant ok, je reste encore 6 mois. Et c'était fantastique, j'ai vécu une expérience incroyable avec les gamins, ils ont tellement de choses à nous apprendre, j'ai voulu leur rendre hommage.
Vous avez d'ailleurs créé un groupe WhatsApp pour continuer à communiquer avec eux.
Ouais, on a un groupe
WhatsApp. Ils ont vu le film alors
Certains l'ont vu, ils sont venus, ils sont sortis, ils ont dit ouais, t'as pas tout raconté. tu t'es épargné, t'as pas dit tous les trucs qu'on faisait. Ils m'ont rappelé des souvenirs que j'avais oubliés.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Non, mais par exemple, une fois, je les avais réquisitionnés en leur disant stage ultime de théâtre ce soir à 21h, rendez-vous Grand Boulevard. Et j'avais oublié cette histoire et en fait, j'aurais ramené des tracts de mon spectacle. Et ils devaient aller faire de la pub pendant ce spectacle. Mais je me rappelais pas. Et ils m'ont dit à la fin, tu nous as dit voilà, vous devez aller convaincre chaque personne de venir à mon spectacle. Ça va vous aider pour.
Vous les avez exploités.
Pour la discussion. Voilà. Mais avec le recul, ils me disent mais en fait, c'est complètement illégal. Tu nous as fait travailler au noir, alors c'est pas gratuit, en fait, on n'est même pas payé. Donc ouais. Je me rappelais plus de ça.
Ça les a touchés, le film, j'imagine.
Ouais, ils ont eu. Ça, ouais.
Il paraît que dans les projections d'avant-première, il y a un public très mélangé.
C'est incroyable. Ça va vraiment de 7 ans à 77 ans, c'est pas une image, il y a toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, toutes les professions. Parce qu'on a tous ce point commun d'avoir un lien avec l'école, qu'on s'y soit trouvé ou qu'on s'y soit pas retrouvé, on a tous ce lien-là. Le film traite de plein de thématiques et c'est un film qui est à la fois très intime, mais en vrai très universel.
Donc effectivement, et on rit, on pleure.
Ouais, enfin, c'est pas moi de le dire, mais effectivement, oui, on rit beaucoup. Ouais. Ouais. Et merci beaucoup.
Alors, dans ce film, il y a Catherine Deneuve qui joue. Elle joue une femme à la retraite qui tient beaucoup à vous. Alors, et elle fait des petites arnaques avec votre personnage.
Ouais.
Et alors, enfant, arnaque, combine, femme à la retraite, vous êtes sûr que ce n'est pas une biographie d'Emmanuel Macron?
Oh non.
J'ai pas mieux. La vanne est meilleure que ce que je veux dire.
Non, mais alors dans votre film, votre vie prend un tournant le jour où un ami de Catherine Deneuve, André Dusselu, lui offre un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclu du système scolaire. Un job bénévole pour un jeune, ça s'appelle un stage, en fait.
En fait, je reviens à la question d'avant, vous avez raison. Avec Catherine Deneuve, en fait, s'occupe de mon personnage. On sent qu'elle fait les arnaques, mais parce qu'elle tient à lui. Elle veut pas qu'il se fasse attraper. Elle a plus d'expérience, elle est plus intelligente, donc elle l'aide. Mais en vérité, elle est contre ces arnaques. Et quand on tombe sur Victor, je ne veux pas André Dusselier, elle fait tout pour qu'il me propose un job, un vrai taf, quelque chose qui me sort de mon quotidien, en se disant il a du potentiel, il faut l'exploiter ailleurs. Et effectivement, elle avait vu juste parce que je vais trouver ma place au sein de ces gamins-là. Et en trouvant ma place, je vais les aider à trouver leur place. Et tout va s'emboîter, en fait.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Catherine Deneuve, Kairon ?
Très cool.
Ouais.
Très cool. Elle a beaucoup de retard.
De retard.
Ouais, au rendez-vous. Non, ah. Oui, pas. Non.
Elle n'est jamais à l'heure, vous
voulez
dire.
Elle n'est jamais à l'heure.
Oui, parce que sinon, à son âge, ça aurait été un scoop.
Non,
ça aurait été un scoop.
Oh, la violence. Non, elle arrive très en retard, mais elle a un petit chien très mignon avec qui elle est venue. On avait rendez-vous. Non, mais là, si je raconte, vous allez encore plus trouver des vannes, mais. On avait rendez-vous dans un hôtel, c'est pas une vanne.
Avec Catherine Deneuve.
Non mais j'imagine la scène à la maison. Bon chérie, j'y vais, j'ai rendez-vous dans un hôtel avec Catherine Deneuve. Reste ici.
Non.
Quel hôtel ?
Je sais plus le nom. Un hôtel pas très loin
c'était
de chez elle.
C'était quelle chambre ?
Non, c'était dans le
bar.
Le bar en bas, voilà. Mm-hmm. Donc.
Oui, là vous avez commandé un thé pour faire chic.
Moi je bois que de l'eau.
Ah oui.
Donc je suis le mec le plus ennuyeux. Donc, j'ai pris l'eau. Puis Catherine elle est arrivée. Puis on a discuté du scénario.
Ouais.
On a parlé, on s'est fui deux fois. Et puis, mais elle avait accepté, ça s'est fait très très simplement et de façon très très cool.
C'est quand même une icône du cinéma français, comment ça s'est passé de tourner avec elle ?
Mais moi, ça, je le sais, mais comme je viens pas du cinéma, je me suis retrouvé à faire du cinéma parce que je faisais de la scène et qu'on m'a dit, tiens, t'as pas un truc intéressant à raconter au cinéma, si t'as envie d'écrire-nous un truc. Donc, du coup, je viens pas du cinéma. Quand j'ai fait mon premier film, j'avais vu 30 films maximum dans ma vie. Donc, je connaissais rien de ce milieu-là. Et je sais que Catherine Deneuve est une immense star dans le monde entier. Mais j'ai pas vu toute sa filmographie, donc moi j'arrive sans complexe avec mes gros sabots et je l'ai.
Enfin, vous lui parlez gentiment quand même.
Mais comme à tout le monde, comme je parle à toute l'équipe, aux enfants, il y a personne à qui je parle mal, je suis toujours dans la bienveillance et dans l'empathie, mais je suis aussi exigeant et je veux obtenir ce que je veux obtenir. Et Catherine, c'est une grande professionnelle, donc ça s'est fait très très naturellement.
Ouais, Catherine.
Mais... Non, mais c'est
vous
c'est...
Vous lui donnez un petit surnom,
voilà,
Catou.
Oh, tu vas le dire.
C'est vrai ?
Non, c'est pas vrai. Pas du tout, non, j'appelle Catherine, je la vous vois et tout.
Ah oui,
non, mais oui, mais ça se passe. Très très fluidement et très très encore une vanne pour Mike.
Très simplement.
Et non, elle vous voit.
Elle vous voit aussi, ouais.
Ouais.
Ouais. J'ai essayé de la tutoyer. Et elle m'a dit pas de problème, mais j'ai vu que ça la gênait, donc je suis revenu au vouvoiement direct.
Alors donc vous retrouvez dans le film votre personnage se retrouve responsable d'un groupe de 6 adolescents expulsés pour absentéisme, insolence, port d'armes, enfin des lycéens en fait quoi.
Lycéens, c'est vrai. Ouais. Pardon, allez-y, pardon, je vous ai coupé. Non, mais malheureusement, c'est une réalité. C'est que dans... je voulais pas faire un film mensonger dans lequel les problématiques des six enfants sont un qui vend des armes, l'autre Daesh, le troisième trafic d'organes, le quatrième excision. Je voulais un truc sincère. Donc effectivement, ceux qui travaillent avec des enfants le savent, l'immense majorité des gamins exclus, c'est pour des absences, pour des retards, pour des petits problèmes de comportement, pour des bavardages. Mais dans le tas, il y a de temps en temps aussi des problématiques plus lourdes, dont le port d'armes. Moi, vous me rappelez un souvenir. Je l'ai pas mis dans le film, mais quand j'étais éducateur, il y a un jour, je fous dans le sac d'un des gamins, et vraiment le sac était vide, il y avait que trois choses dans le sac. Il y avait son carnet de correspondance, il y avait une pomme et il y avait un sabre.
Un sabre ?
Un sabre. Je ne me rappelle plus, je vous promets, j'avais oublié ce souvenir.
C'est pour couper la pomme. Ouais,
on a trouvé, il y avait un sabre de 40-50 cm et le sabre faisait la taille du petit, quoi. C'était incroyable. Il était tout petit, il avait un sabre. Et ça arrive, il y a parfois des enfants ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Donc effectivement, j'ai traité une problématique avec un des gamins qui a ramené une arme à l'école. C'est dans le film, la suite. Mais c'est drôle, hein, c'est très drôle.
C'est très, très drôle. Kéron, le titre du film Mauvaise Herbe fait référence à un vers de Victor Hugo. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Vous le pensez profondément ?
Vraiment, ouais. Dans mon téléphone, j'ai une liste de citations. Je trouve qu'une citation, c'est fantastique. Ça permet d'aller plus vite, en fait, et de faire comprendre plus vite les choses. Et par exemple, quand je ne vais pas bien, je lis ces citations-là. Et y en a une que j'adore, par exemple. C'est avec une arme, on peut tuer un terroriste. Avec l'éducation, on peut tuer le terrorisme. Voilà, et tout le monde fait « Ouais, c'est vrai, voilà. » Il y a un truc qui se passe, mais c'est magnifique. Une citation, ça permet d'aller tellement plus vite. Et donc, quand je me suis dit « Je vais travailler sur cette thématique-là pour mon prochain film », en fait, tant que j'ai pas le titre, tant que j'ai pas le début, j'ai pas la fin, je vais pas écrire. Une fois que j'ai à peu près l'ossature, là, j'écris d'un jet. Et donc, j'ingurgitais ça, je lisais mes citations et je cherchais le titre. Et quand je tombe sur la phrase de Victor Hugo, je dis « Évidemment. »
Dites-la avec votre voix, ça va être plus joli.
Il n'y a pas de mauvaises herbes comme il n'y a pas de mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs.
Michael Kuroga a fait votre portrait, Kéron. Ah. Michael Kuroga, vous avez connu donc il y a très longtemps. Non,
on se connaît et puis je vais pas trop en dire pour pas le.
Non, ah voilà. Si, dites-nous, révélez-nous des détails sur sa vie.
Moi, je te préviens, tu balances, je balance. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bonjour Kéron. Hein, donc, ravi de vous revoir. C'est marrant, je le tutoie dans la vie.
Bah oui, c'est pour ça.
Mais comme Catherine Deneuve, tu le vouvoies ici.
D'accord. C'est vrai que je la vouvoie que dans l'intimité. Alors, donc, je suis ravi de vous revoir. Le public commence vraiment à vous connaître, mais pour les retardataires, on va tout de même rappeler que vous êtes né à Téhéran. En Iran, alors pour les anciens, l'Iran c'est ce pays que vous connaissez sous le nom de la Perse. Et pour les plus jeunes qui n'écoutent rien en cours d'histoire, les Perses sont ceux qui ont pris une tollée par Léonidas dans le film 300. Voilà, Kéron, vous avez 36 ans, c'est un nombre important parce que 36 ans, bah, c'est l'âge du Christ, s'il avait survécu. 36 ans, c'est la durée du quinquennat de François Hollande. Oui, alors je sais qu'un quinquennat, ça dure 5 ans, mais là, je fais comme la météo, je parle en température ressentie. Hein. Voilà, et 36 ans, c'est sans doute aussi l'âge auquel Olivier Giroud marquera son prochain but.
Oh là là, il ne lâche pas l'affaire.
Ah non, il marque pas, il défend pas. On peut au moins faire des blagues, faut qu'il serve à quelque chose.
Donc, il fait des passes décisives.
Oui, j'ai connu une fille qui faisait ça aussi. Alors, tout d'abord, bon anniversaire, parce que vous avez 36 ans aujourd'hui même, donc Tavalo d'être Mobarak, Nouchi.
Oh merci. Est-ce que c'est un regard? Allez.
Voilà. Mais c'est en quelle langue, ça?
C'est en iranien.
C'est voilà. Bon anniversaire en iranien?
Ouais. Ou... ouais, enfin, ouais, voilà. Donc, vous venez de faire un anniversaire à l'étranger, dis donc. Tavalodet Mobarak, donc c'est une chanson d'anniversaire que tout le monde connaît hein, en Iran, parce que de toute façon, c'est la seule à laquelle ils avaient droit. Donc, non, Fozar, les gens aiment faire la fête en Iran, on ne l'imagine pas, parce qu'on parle de lui, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'Iran, mais c'est bon, on n'imagine pas ça à cause de tout ce qu'on nous dit sur l'Iran. Hein. Par exemple, là-bas, il y a une police de la vertu, il faut le savoir, qui compte 7000 membres et qui surveille la morale et l'observation des lois de la charia. C'est l'équivalent français, vous voulez, ça serait Christine Boutin qui montrait une milice dont tous les membres seraient Christine Boutin. Vous voyez, c'est ça. Donc, Kéron, vous êtes humoriste, vous exercez en France et franchement, c'est tant mieux parce que quand vous êtes humoriste en Iran, c'est qu'au F4. Ah ben là-bas, ce sont les ayatollahs qui décident de ce qui est drôle ou pas. Hein, les ayatollahs, c'est comme le CSA, mais avec une kalachnikov. Là-bas, il n'y aurait jamais eu de clash entre Cyril Hanouna et le CSA. Vous voyez, pas plus tard que l'été dernier, il y a un journaliste, Mir Mohamed Hossein Mir Esmaili, qui a fait une petite vanne de rien du tout sur un imam. Et ben, il a pris 10 ans de prison ferme. Et même pas un imam vivant, hein. C'était un imam du 9e siècle. 10 ans ferme pour une vanne. À mon avis, là-bas, le code pénal aussi, il date du 9e siècle. Il y a des endroits, si vous sortez une vanne, si vous fumez une clope, c'est la prison directe. Donc nous, avec notre paquet à 8 euros, on est bien. On est bien. En Iran, ils ont mis le paquet à 30 jours, ça fait cher. Donc Kéron, c'est aussi un réalisateur. On l'a dit, Mauvaise Herbe, votre second film avec Catherine Deneuve, André Dussolier, deux monstres sacrés. Ça sort aujourd'hui sur les écrans. Alors sans rien dévoiler, moi, j'ai adoré cette scène où vous massez les pieds de Catherine Deneuve. Voilà, je voulais que vous sachiez que vous avez réalisé mon fantasme.
T'as un fétichiste des pieds ?
À 50 ans près.
Ah ouais.
Voilà, on s'énerve pas. Sérieusement, non, elle est géniale dans le film, comme vous d'ailleurs, avec votre côté lunaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup été impressionné par le naturel des enfants. J'ai passé un vrai bon moment. Il y a des passages drôles, d'autres émouvants et d'autres même très forts. Kéron, vous savez sûrement qu'en farsi, donc la langue la plus parlée en Iran et en français, il y a un mot qui se prononce de la même façon. Ce mot, c'est merci. Alors, merci de continuer de nous faire rire, merci de continuer de nous émouvoir et merci de votre patience.
Bravo!
Merci.
Et merci, Mickaël, qui regarde.
Non, non, mais franchement, je voulais dire un truc, c'est que, bon, je dis jamais rien après mes chroniques et tout, mais là, j'ai vraiment été touché par ce film. Il se passe des vrais trucs. Il y a des barres de rire, vous vous cassez les côtes. La seconde d'après, il vous chope au cœur. Franchement, c'est un très grand film, moi, je trouve. Voilà.
Oh. Merci, merci beaucoup.
Vous refusez des rôles au cinéma ? Vous dites que vous préférez vous faire rare et participer à des projets que vous sentez profondément ?
Oui, alors je ne vais pas vous mentir. Là, ça, c'est un truc que j'ai dit il y a deux ans quand on me proposait encore des rôles. Là, c'est vrai qu'on ne propose plus rien depuis deux ans, mais ce n'est pas grave.
Depuis que vous avez fait votre film, on ne vous propose plus rien.
Ce qui se passe, c'est marrant, c'est que je fais un film dans lequel je joue le rôle de mon père, donc un immigré, et on me propose 10 films derrière où je suis un immigré.
Ouais.
Donc un Irakien, un Syrien, un Kosovar.
En même temps,
polonais.
Vous n'avez pas un physique de Suédois.
C'est vrai que j'ai pas. Non, mais on peut être ne pas immigré.
Et avoir cette tête là, qu'est-ce que tu
veux? Non, mais t'es noir, mais t'es pas immigré, t'es né ici. Je pourrais jouer un mec, ouais, qui est né ici, qui s'appelle Fred, qui est italien. Je me fais un film. Je m'appelle Marcello.
Ah oui,
dans un film.
Jouer
non, mais j'en sais rien. Excusez-moi, c'est ce qu'il fait chaque été. Il s'appelle Mario, il est italien.
Non, mais c'est que je fais ça. Là, je sais qu'après Mauvaise Herbe, on m'a proposé pendant quelques mois tous les rôles de mec un peu débrouillard, éducateur, etc. Et puis, comme j'ai déjà fait, je vais pas le faire. Et puis après, on va passer à autre chose.
Donc là, ce que vous voudriez jouer, c'est un pizzaïolo, en fait.
Par exemple, j'adorerais jouer un mec qui tourne des pizzas en l'air et tout.
Donc ce sera votre troisième film, parce qu'on n'est jamais vu
à voir. Je me suis fait avoir. Non, troisième film, il a rien à voir. C'est une surprise. Vous allez voir. Normalement, il sort en 2020 si Mauvaise Herbe marche bien. Voilà. Très sincèrement.
C'est encore une histoire liée à votre
vie.
Non,
pas du tout. C'est complètement l'opposé de ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc ça va être nul. Pas du tout, non.
L'opposé, c'est-à-dire une vraie pure comédie.
Ça va être surprenant pour le public.
D'accord.
Ça va être surprenant.
Vous dormez quand même, Kéron,
malgré tout ? Je suis un insomniaque.
Déjà, vous êtes un insomniaque naturellement, mais là, en cette veille de sortie, vous avez dormi hier soir ?
Ouais, tranquille.
Ouais ?
Non, pas du tout.
ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas dormi ?
Non, ça fait plusieurs mois. Je suis sur les routes depuis le 5 juin, donc. J'ai hâte, c'est comme j'ai pas d'enfant.
Comme un accouchement.
Voilà, j'allais dire, mais quelle légitimité j'ai pour dire c'est comme un accouchement, je connais rien en accouchement. Mais je pense que les femmes, vous le ressentez depuis le début jusqu'à la fin. Sauf que vous, quand ça sorti, c'est le début des problèmes qui commencent. Alors que nous, quand c'est sorti, les films, ça y est, c'est fini.
Léa Londo a des questions à vous poser, Kéron.
Alors, Kéron, bonjour.
Alors, le troisième film.
Non, dans votre film Mauvaise Herbe, dont le titre me rappelle évidemment ce que fume Mickaël, ou ce qu'il revend, je ne sais plus.
Gros fumeur, Mike.
Donc, vous partagez l'affiche avec Catherine Deneuve et André Dussolier. Alors, vous jouez aussi toujours votre spectacle 60 minutes avec Kéron.
Ouais.
Et aujourd'hui, je me suis lancé deux défis. Le premier, c'est d'accorder 60 secondes à Catherine Deneuve pour parler de vous et 60 autres secondes à André Dussolier. Et le deuxième défi, c'est de réussir à vous faire une petite surprise. Je commence par le premier. Top. Catherine Deneuve, que diriez-vous de Kéron ?
Il aime beaucoup les femmes et particulièrement les actrices.
Oui, ça on sait. Il laisse entendre depuis le tournage que vous êtes bonne.
Oh ben ça, qu'est-ce qu'il en sait ? Alors là, il exagère.
Non, je voulais dire bonne actrice, Catherine Deneuve.
Peut-être qu'il le dit, mais c'est peut-être pas la vérité.
Oh, vous êtes modeste, Catherine Deneuve.
Oui, absolument.
Mais si Kéron vous draguait, vous en penseriez quoi ?
Ce serait sans doute agaçant.
Et Catherine Deneuve, juste entre nous, vous le trouvez beau, Kéron ?
Oui, non.
Faut savoir. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui ?
Souvent pas très intéressant.
En fait, vous êtes jalouse de lui, Catherine Deneuve.
Oui, c'est peut-être vrai.
Alors, je vous confirme et je passe donc à André Dussolier. André Dussolier, vous savez ce que je vais vous demander ?
De répondre à des questions que saugrenues.
Exactement, sur Kéron. Vous vous êtes bien entendu sur le tournage de Mauvaises Herbes ?
Non, on s'entend pas.
D'accord. Kéron a dû insister pour vous convaincre de faire le film d'André André Dussolier ?
Souvent, j'ai l'impression de l'avoir rencontré d'abord une première fois, puis re-rencontré.
Ouais, ouais, donc il vous a pourchassé en quelque sorte.
Ça tournait autour de ça. Hein.
Et quand il vous a dit que vous alliez partager l'affiche avec Catherine Deneuve ?
Ça m'a fait beaucoup rêver.
Ouais, tu m'étonnes, coquin. André Dussolier, vous savez que Kéron est excellent sur scène, il improvise sans arrêt, vous aimez ça ?
Moi j'aime bien le silence.
D'accord, vous êtes comme Catherine Deneuve en fait. Et sinon, le fait que Kéron vienne parler de son film à la radio, André Dussolier ?
Orson Welles disait « La radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. »
Voyez-vous qui aimez les citations, ce qui nous permet de voir donc Kéron en plus grand à la radio, grand comme le scénariste et réalisateur qu'il est devenu, et grand en âge, puisqu'aujourd'hui même, c'est votre anniversaire. Voici donc mon deuxième défi que je me suis lancé, c'était de vous surprendre avec une petite surprise d'un pote qui vous aime.
Et Kéron ! C'est bête. Baptiste Caplin. Merci Kéron. Je te souhaite plein de belles choses pour ton film Mauvaises Herbes. Et voilà, je te souhaite évidemment un très bon anniversaire. Je te laisse, je suis dans la rue avec Kevin Spacey dans Paris et on nous regarde chelou.
C'est trop mignon.
Et Kéron, alors à part le succès de votre film, quel serait le plus beau cadeau d'anniversaire que vous puissiez avoir ?
Bonne question. Waouh.
Un bol ?
Un bol. Un bol. Un meilleur bol que le premier.
Notre invitée ce matin qui a fait la fierté de la France en se faisant sacrer Miss Univers en 2017. Celle qui se destinait à une carrière de dentiste n'est pas passée loin, puisque partout où elle va, elle nous donne le sourire, que ce soit dans Danse avec les Stars ou dans Ninja Warrior, elle adore relever de nouveaux défis. Ce matin, elle vient nous parler du spectacle L'Oiseau Paradis de Kamel Wally au Paradis Latin, dont elle est la meneuse de revue. Iris Mittener est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Iris Mittener.
Bonjour.
Alors moi je suis hyper stressée de votre nom parce que moi je disais Iris Mittenaere, oui. Et là on me dit qu'il faut dire Iris Mittener.
Mittener, ouais, c'est flamand. C'est vrai que les gens ont envie de le prononcer à la tahitienne, mais c'est flamand. C'est un peu moins glamour, mais bon.
C'est très glamour, c'est très bien.
Vous avez un petit foulard, Iris Mittener, oui. Vous êtes enrhumée ?
Un petit peu, c'est vrai que, d'ailleurs ça s'entend, c'est pas facile en ce moment parce que je pousse un peu la voix tous les soirs, donc du coup je suis un peu sensible.
Au Paradis Latin ?
Au Paradis Latin, ouais, justement.
C'est un gros rythme, vous n'aviez pas l'habitude de ça ?
Ouais, complètement, c'est tout nouveau pour moi, et puis de faire la même chose tous les soirs, c'est aussi très nouveau, donc c'est assez plaisant de retrouver une petite routine, parce que ça faisait quand même des années que j'en avais pas eu, mais ouais, c'est assez intense.
Vous avez voyagé partout avec vos titres, aux ouais. États-Unis, vous avez sillonné la France.
Ouais, complètement, un peu partout dans le monde, et là je reste à Paris pour 9 mois au moins.
Oui, mais vous n'avez aucune soirée de libre, du coup.
Ouais, j'ai... Ouais, non.
Ah mince, mais voilà.
Désolée, bah ouais, je voulais, mais ouais. Du coup, c'est pas possible.
On pourrait filmer ce moment-là. C'est pour mes potes. Ça va, les gars ?
Vous savez, Iris Mittener, vous savez qu'en tout, j'ai 9 chroniqueurs, seulement 4 places à pouvoir dans chaque émission. Et quand on leur a dit que vous veniez, ils se sont battus. Ah. Ouais. Je vous présente les gagnants, Laurent, Ben H, Jean-Philippe. Il y avait aussi Ryan Gosling et Bradley Cooper qui voulaient venir, mais il n'y avait pas assez de place autour de la table.
C'est dommage.
Vous n'êtes pas trop déçus ? Non mais regardez, bah non, Jean-Philippe non, par exemple, déçu. Il ressemble pas mal à Bradley Cooper qui aurait la gueule de bois.
À Bradley Cooper.
Ah la jalousie, ah, c'est ça qui vous fait dire ça.
Lequel vous plairait le plus dans les trois ?
Les trois évidemment.
Moi voilà. Éventuellement.
Bah voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le petit rouge à lèvres rouge.
Ouais, ouais. Couple moderne.
Alors après avoir été élue Miss France et Miss Univers et c'est maintenant voilà meneuse de revue. Est-ce que ouais. C'est une suite logique ? Vous attendiez pas du tout ? Et ça consiste en quoi meneuse de revue ? En fait, c'est meneuse de revue. Je précise, ce n'est pas celle qui change les magazines dans les salles d'attente chez le médecin, parce que cette personne n'existe pas vu les dates des revues. Meneuse de revue, c'est un peu mener tout le monde à la baguette, c'est devenir la vitrine d'un spectacle sans égérie.
Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu devenir l'égérie d'un spectacle, mais c'est aussi contribuer à l'ambiance de groupe en fait. Donc c'est un rôle assez important parce qu'on est une trentaine et il faut qu'il y ait une bonne ambiance en coulisses, donc je me charge de ça.
Vous chargez d'ambiancer les coulisses, comment vous faites ?
D'ambiancer tout le monde, que tout se passe dans la bonne humeur et aussi que ça respecte le plan de Kamel Wally, parce qu'au départ il a fait un spectacle, ça va durer 9 mois, donc il faut que ce soit le même du début à la fin.
Il vient vous vérifier, Kamel Wally ?
De temps en temps, ouais, il vient vérifier.
Il vient vous gronder ?
C'est vrai qu'il fait un peu stressé, parce qu'il regarde et il dit rien. Et on sait que ça va pas.
Comme dans les yeux quand ils regardent.
Comme vous, comme vous.
Ah bah moi aussi je fais ça.
À chaque fois je dis ah bah voilà. Sauf que la différence c'est qu'elle a un couteau dans la main. seule chose.
Non mais attends, c'est une troupe. Vous êtes combien d'artistes sur scène, Iris Mittena, en Paradis Latin?
On est presque 30, ouais.
Bah oui, mais alors il en faut, parce que là déjà moi 4, j'ai du mal à me faire respecter. Oui. Donc, 30
hein? Ouais. Non, il faut pas mal d'autorité aussi.
Alors on peut voir sur l'affiche de ce spectacle en ce moment dans Paris, hein, on vous voit dans une petite tenue, enfin une toute petite tenue. Vous avez pas peur d'être responsable d'accident de la route, Iris Mittena?
J'ai raté la sortie de mon métro la dernière fois.
Mais les gens râlent moins quand le métro ne vient
oui,
plus.
Oui, c'est vrai. Vois, c'est...
Il paraît que la reconnaissance d'accidents de trottinette dans les rues de Paris, vous êtes sûr que c'est pas à cause de cette affiche?
Non, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la dernière fois, je me suis promenée et presque j'en ai eu marre de me voir. Il y a vraiment beaucoup d'affiches dans Paris.
Vous êtes bien
la seule.
Vous êtes bien, oui, vraiment.
Ouais, peut-être.
Moi aussi, je suis troublée par cette affiche. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais on dirait moi.
C'est vrai.
Non, mais c'est un sacré engagement quand même. Tous les soirs, sauf le mardi, ce spectacle va se prolonger jusqu'en octobre 2020. En fait, dire oui à Kamel Wally, c'est plus engageant que se marier.
Ouais, pratiquement. C'est vrai que c'est comme avoir un bébé, parce que là, j'y suis 9 mois. J'ai un peu tous les inconvénients.
Vous avez la nausée ?
Je suis fatiguée, ça m'arrive, ouais. Mais à la fin, j'ai personne.
Vous sortez épuisé de scène ?
Ouais, quand même.
Ouais, épuisé. Et, ouais.
Il sait. Il sait de quoi il parle.
Bien sûr, je suis épuisé moi aussi.
Je suis sûr qu'il y croit en plus. Il essaie de l'attraper.
Il arrive de lui. Il
espère qu'il va y arriver.
Il va falloir qu'on lui parle quand même.
Iris est très professionnelle, elle joue le jeu. Lui, il est très premier degré.
Ta méchanceté, ta jalousie, tu joueras des tours à toi.
Passionnant.
Oh, jamais, comment il est là, il a souri.
On est gentil, les invités.
Non, attends, tu m'as jamais regardé comme ça, excuse-moi.
Mais je vais me lancer le regard de ça va pas. C'est pour ça que je ne vous regarde pas comme ça.
JP, je te rappelle que la semaine dernière, t'as dragué Jeanne Masse. Et on est tous témoins de ça. Alors,
et il s'est passé des choses après.
Voilà. Alors, n'en veux pas à Laurent d'essayer avec Iris Mittena. Ouais,
c'est un peu plus compliqué quand même.
Pourquoi pas pour ça?
C'est comme si tu voulais escalader l'Everest. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Je suis juste.
Alors que Jeanne Masse, c'est un petit dodane, c'est ça?
Qu'est-ce que ça vous fait, Iris Mittena, d'être la star d'un show? Il n'y a que les meilleurs des meilleurs.
Ça met la pression. Franchement, ça met la pression parce que la première fois que je les ai rencontrés, je me suis dit, oh là là, ils vont me juger. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et finalement, maintenant, il y a une vraie ambiance de famille, donc c'est plutôt cool.
Ils vous ont donné des conseils?
Oui, beaucoup de conseils.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils m'aident énormément. Tous les soirs, il y a un chanteur qui fait partie de la troupe qui vient m'aider, Cyril, qui revoit avec moi toutes mes chansons. Les danseurs aussi, dès que j'ai un problème, ils m'encouragent. Quand on a des petits problèmes techniques, ils sont en train d'hurler dans les coulisses pour nous donner de la force. Donc vraiment, c'est hyper cool.
Il y a une bonne ambiance.
Oui, complètement.
Vous habituez à danser sur des talons de 15 cm avec 12 kilos de plumes sur le dos? Et puis, qu'est-ce que ça vous fait de danser sans avoir Jean-Marc Généreux qui hurle à vos côtés?
Ouais, c'est vrai que de pas avoir de notes tous les soirs, c'est plutôt sympa. Ouais. Parce qu'on est beaucoup plus détendu. Mais après, c'est difficile parce que j'ai des bleus en permanence sur les clavicules avec les Gabriel et les plumes. Mais bon, c'est une bonne douleur, on va dire.
Qui c'est Gabriel?
Il y a quelqu'un de. Il y a quelqu'un de.
Il vous donne de
Gabriel. Mais Gabriel, c'est expliqué. Iris Mittena, c'est un
culte. Oh,
Gabriel, c'est de. Un énorme cercle de plumes dans mon dos.
D'accord.
Même comme un petit sac à dos, mais de plumes.
On continue parce que je vais me faire voler dans les Gabriels. C'est
pas comme ça. Mal, Iris, vous dites aussi que le fait d'être Miss Univers, ça impressionne les hommes. Il y en a qui n'osent même pas vous
pas
draguer.
Tous, hein, pas tous, pas
oui,
tous.
Oui. Non, ils font ça pour rire, en fait. Ils font ça parce
moi aussi,
que...
les hommes me draguent pour rire. Ouais.
Non, mais du coup, il y avait très peu de dragues sérieuses. Non.
Il y a très peu qui osent, en fait.
Qui osent, ouais. Qui osent et qui le pensent sincèrement et qui essaient vraiment de me connaître.
Bah, déjà, je bégaye devant Christine, excusez-moi.
Et c'est très bien. Continue de bégayer, s'il te plaît.
Et Miss Univers aux États-Unis, quand vous êtes arrivée, il y a des hommes qui étaient là. Ça doit fasciner quand même, non? Surtout quand vous avez été nommée, il n'y a pas eu de.
Oui, ça fascine. Mais moi, je le comprends parce que moi aussi, quand j'étais pas Miss Univers, quand j'étais pas Miss du tout, c'était un truc un peu étrange pour moi, Miss Univers. Et c'est vrai que c'était plus un titre qu'une fille, finalement. On parle de « Ah, elle se prend pour Miss Univers ». Finalement, on parle du titre plus que de la fille derrière le titre. Donc ouais, c'est
et
ça qui est impressionnant.
Vous dites que même Miss France, à un moment, vous êtes sentie très seule. Même votre grand-mère a changé. Quand vous êtes arrivée chez elle, elle a dit « Oh, j'ai Miss France dans ma cuisine ».
Oui, c'est
et
ça.
Et vous lui avez dit « Ben non, c'est moi, mamie ».
C'est ça, elle m'a dit « C'est incroyable d'avoir Miss France à la maison ». Je dis « Mais c'est moi, je suis déjà venue, c'est Iris ». Et c'est vrai que des fois, ce titre... bah, nous perd un petit peu. Ouais.
Et vous dites que quand vous êtes arrivée à Paris comme Miss France, vous avez été à un moment même limite en dépression, vous n'étiez pas bien, vous osiez le dire à personne parce que tout le monde disait t'as de la chance, c'est formidable et tout. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus vos amis, vous n'avez plus votre entourage.
Bah, c'est compliqué de dire aux gens je suis malheureuse alors que pour les gens on a tout. On a tout, on vit à Paris, on porte des robes magnifiques, on a énormément de cadeaux. C'est difficile de dire, ouais, mais quand je rentre chez moi, je suis seule, je n'ai pas envie, je n'ai plus le temps de voir ma famille. Et c'est dur pour les gens de comprendre, du coup, on ne le dit pas. On ne le dit pas, et moi, ma mère, quand elle me disait ça va, je disais, oui, tout va bien, tout se passe très bien. Je ne pouvais pas dire à ma maman, qui a travaillé dur toute sa vie pour avoir le peu de choses qu'elle a, que moi, dans ma vie de princesse, j'étais pas très heureuse.
Et maintenant, vous êtes heureuse, Iris Mittenaere ?
Oui, maintenant, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je peux faire ce que je veux, parce que je réalise mon rêve de petite fille aussi tous les soirs.
Et ouais, paradis latin.
Je m'éclate et je choisis de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, donc c'est cool.
Ah, vous êtes, elle est heureuse, Laurent Barra.
Vous voulez un Doliroom ? J'en ai parce que...
Oh, mais quel canard !
Moi, je suis...
Allez, c'est la technique du canard.
Coin, 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 coin. Quoi de plus sincère que vous proposer un Doliroom ? Parce que je vois...
Demandez-lui un truc, il va vous l'apporter.
Je vais vous l'envoyer quelqu'un, me le chercher dans ma poche.
Est-ce qu'on vous a déjà dragué en vous proposant du Doliroom ?
Jamais, c'est une première.
Iris Mittenaere, Jean-Philippe Vizigny a des choses à vous dire.
Oui, Iris, parce que quand on m'a demandé de faire votre portrait à la maison, ma femme m'a fait une crise de jalousie parce qu'elle a peur qu'entre nous, il se passe quelque chose.
Non, bah on la rassure, hein, tout va bien.
Ça va, toi ?
Tout va très bien.
J'ai honte.
Tout va très très bien.
En même temps, je la comprends car vous et moi, nous avons énormément de points communs.
Eh ben.
Vous racontez que quand vous étiez enfant, vous aimiez beaucoup vous déguiser en princesse. Et ben moi aussi, j'aime beaucoup. Mais ça va, voilà, faut vivre avec son temps, même si je préfère pas trop en parler ici à la radio. Quand vous étiez petite, on vous surnommait le clou. Parce que vous étiez très mince. Oui. Et ben moi aussi, ma femme, elle trouve que j'ai une partie du corps qui ressemble à un clou. Mais ça me gêne de vous le montrer en public.
Oui.
À 7 ans, vous souhaitiez devenir dentiste. Et ben figurez-vous que moi aussi, j'aurais tellement aimé passer mes journées à mettre mes doigts au milieu des lèvres. Non, on s'égare. Vous avez été élue Miss France et ensuite Miss Univers. Et ben moi aussi... Les concours de beauté, je connais bien. J'ai été élu Mister Camping à Saint-Aigulf en 1998. Et ensuite, après votre règne, vous vous engagez notamment pour le brossage des dents des enfants. Ça vous tient à cœur. Alors moi, j'ai deux enfants à la maison. Et ben, je peux vous dire, c'est très compliqué de les obliger à se laver les dents. Hein. On les a emmenés chez le dentiste. Il leur a soigné toutes les caries qu'ils avaient. Il nous a prescrit un dentifrice à l'eau de Javel et au vinaigre blanc. Il m'a dit, apparemment, c'est la seule chose qui pourrait faire un jour qu'ils aient à nouveau les dents blanches. J'ai une fille de 14 ans, alors elle a besoin d'un appareil dentaire parce qu'elle a les chicots dans tous les sens. Elle a les dents, comment vous dire, on est allé aux eaux de Touhari. Il y avait tous les castors qui suivaient ma fille, ils pensaient que c'était leur mère. Ah ouais, ma fille, elle a des dents, je vous assure. À Noël, pour ouvrir les huîtres, quand on n'y arrive pas avec le couteau, c'est ma fille qui fait avec les dents, tu vois. Le dentiste, il nous a fait un devis pour lui faire poser un appareil. Ça coûte une fortune. J'ai dit à ma femme, laisse tomber. On va aller chez le roi Merlin, c'est la semaine du bricolage. Je vais acheter des outils, on va lui refaire les chicots nous-mêmes. Rappelle-toi, l'été dernier, la clôture du jardin, elle était toute tordue. Bah, à force de taper dessus, maintenant, elle est nickel. Voilà, alors Iris Mittenaere. Est-ce que vous voulez bien venir chez moi pour coacher mes enfants ? Parce que moi, j'y arrive plus du tout. Oui, elle a dit oui. Bon, il faut que je prévienne ma femme.
Il a l'air d'avoir du boulot quand même, ça fait un peu peur. Je vais prévenir
ma femme parce que quand je veux lui dire qu'il y a Miss Univers qui vient à la maison, ça va encore faire toutes des histoires. Voilà.
Après nous avoir demandé c'est quand le bonheur, il nous a prouvé au fil de sa carrière que c'était souvent quand il sortait un album. Poète, showman, auteur, sa sensibilité à fleur de peau fait mouche à chacun de ses écrits. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier livre, Cavale, ça veut dire s'échapper aux éditions.
Un verre de rouge pour la 4. On avait dit pas de rouge à l'émission.
Non, c'est parce que j'ai travaillé hier jusqu'à 2h du matin aux éditions du Cherche Midi. Le chanteur Kali est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Kali, bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Alors, après un livre consacré à l'enfance qui était très émouvant, où vous parliez de votre maman, qui a disparu quand vous aviez 6 ans.
Oui.
Là, vous parlez de l'adolescence. Ça s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper. Vous partagez donc le récit de votre adolescence. Pour vous, s'échapper à l'adolescence, le pétard, ça suffisait pas?
Jamais touché à ça. Je
c'est
vois pas du tout de quoi vous parlez.
Ouais.
Non, non, non. Cavale, c'est s'enfuir de l'enfance, quelque part. Mais en même temps, on veut y rester à fond. Et en même temps, on veut plonger à deux pieds, à pieds joints dans la vie d'adulte. C'est s'échapper parce qu'on touche, on caresse les ténèbres et 10 minutes après, on caresse le soleil. C'est s'échapper parce qu'on comprend pas le corps qui craque et qui se transforme. C'est vouloir sortir de son corps et puis on tombe amoureux, fou amoureux. Et concrètement, s'échapper parce qu'on tombe fou amoureux d'une fille.
Vous êtes tombé amoureux fou
ouais,
plusieurs fois.
Plusieurs fois, ouais. Ouais.
Comme
et,
moi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis d'une Anglaise notamment qui rentrait chez elle et pour la retrouver, j'ai dû m'enfuir, cavaler, aller loin.
Vous avez fait une fugue.
Vraiment, il ne faut pas faire ça, hein, mais je l'ai fait. J'avais 16 ans. Ouais.
Elle vous a bien accueilli ou pas?
Alors c'était troublant parce qu'elle ne savait pas que j'allais la rejoindre.
Oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, ni rien.
Oui, j'avais rien dit. Et je me suis assis dans la cour de son lycée en Angleterre. Elle est passée là avec une grappe d'anglaise habillée en bleu, comme ça. Elle m'a regardé. Il y avait deux solutions. Soit elle me disait, mais tu dégages, c'est fini, c'était une amourette d'été. Et non, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré très fort. Et le soir même, elle m'a présenté à ses parents. Et son père m'a dit, tu aimes ma fille t'aime, alors vous allez vous marier, tu vas travailler à l'usine avec nous. Voilà, c'était parti, ouais.
C'est là qu'il est rentré en France.
Là, vous avez eu peur quand il vous a dit ça?
Non, parce que j'étais fou amoureux. Donc je lui ai juste dit, je veux d'abord aller voir le pays où j'ai décidé de mourir. Parce qu'on appartient au pays où on a décidé de mourir. Moi, c'est l'Irlande. Et je suis parti en stop là-bas. Et là-bas, j'ai téléphoné chez moi. Ça faisait 2 mois que tout le monde me cherchait partout,
oh
la police.
Ouais.
Et ma grande sœur pleurait au téléphone. Elle m'a dit, Bruno, il faut que tu rentres à la maison. Et j'ai plus jamais revu Louise. Voilà, je suis rentré.
Ah, vous ne lui avez pas dit au revoir?
Je suis une saloperie.
Oh là là.
Oh là, vous avez perdu des points là.
Oh l'enfoiré.
Ah, bah, mais c'est horrible. Mais peut-être qu'elle vous attend toujours.
Et son père à l'usine.
Mais il va venir bosser, il est en retard.
Non mais moi j'ai été fascinée. Qu'Ali, c'est pas du tout un chanteur qui écrit un livre comme ça. C'est une vraie œuvre de romance. Et vous êtes un vrai écrivain.
Oh, ça me touche beaucoup.
Il y a des
Merci.
Moments absolument magnifiques. On a les larmes aux yeux quand on vous lit.
Merci beaucoup.
C'est
ça
une écriture coup de poing.
Oui, c'est-à-dire sans plan, sans rien. Courir, quoi. Courir, et comme l'adolescence, les phrases. C'était très jouissif de me replonger, d'avoir 15 ans et de vraiment écrire comme un gamin de 15 ans.
De toute façon, vous avez quand on vous voit, vous avez un côté adolescent.
Oui, j'ai toujours l'impression d'avoir raté le milieu. C'est-à-dire que adolescent. Et puis aujourd'hui, je suis toujours adolescent, mais je n'ai pas passé le milieu. C'est assez bizarre. Ouais, ouais.
Sur la couverture du livre, on voit deux adolescents plongés dans la mer. Est-ce que c'est vous?
Non, ce n'est pas moi.
Pourquoi vous avez choisi cette photo? Parce que l'adolescence, c'est le début de la vie, c'est le grand saut ou...
Oui, c'est parce que c'est la prise de risque et on ne sait pas qu'on prend le risque. Et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que la falaise est là, mais à nos âges, en tout cas à mon âge, on sait ce qu'il se trouve en bas de la falaise et à cet âge-là, on ne sait pas. Donc on saute sans peur de rien. Et j'aimais cette idée d'insouciance vraiment... sur cette photo. Et si on regarde bien la photo, c'est ma petite fille qui me l'a dit. Le garçon à gauche a 6 doigts de pied.
Et a 6 doigts de pied.
Ça n'amène rien, mais elle m'a fait remarquer ça.
ça me donne envie de lire le livre. Moi.
Ah, vous avez grandi à Tchernobyl alors, c'est bien.
Pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette fois vos émotions pour écrire un livre et pas un nouvel album? Vous trouvez qu'on est plus libre quand on écrit un roman, Cali, que...
Ah, c'est un autre exercice, mais qui est tout aussi merveilleux. La chanson, on a 3 minutes pour raconter le monde ou son monde. Et puis, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent en même temps, peut-être, quand ça passe en radio. Et chacun prend les mots qu'il veut. Et après, s'invente des vies avec ça, ou en tout cas se cajole avec ces mots-là. Et part dans direction imaginaire, comme ça. Alors qu'en roman, on peut écrire 100 pages, 200 pages, 1000 pages. On peut décrire tout ce qu'on veut. Nous, nous sommes totalement libres. On n'a pas les points liés par ce format de 3 minutes. Et en plus, on écrit pour une seule personne. Une seule personne qui nous lit juste en face. Et ça, c'est très troublant.
Cali, votre vrai nom, c'est Bruno Caliturri. C'est un nom difficilement prononçable. Si au collège, on n'a pas fait italien, langue vivante 2. Vous êtes né à Perpignan, mais votre famille est d'origine italienne et espagnole. Donc chez vous, on met des spaghettis dans la paella.
Oui.
Vous avez le sang chaud, Cali, ou c'est un mythe?
Non, je l'ai, ouais, c'est terrible.
Parce
ouais,
que vous avez à la fois, si vous avez un ça, côté, vous voyez, là, un peu endormi avec une voix comme ça. J'écris. Et puis de temps en temps, vous pétez les plombs.
C'est parce que j'ai très mal dormi. Et que j'ai très mal au dos. Et je suis. Et c'est plutôt pas mal des fois. Parce que quand on est trop en forme, on en fait trop sûrement. Ouais. Et là, je suis pas du tout en forme. Et je suis bien avec vous, je vous regarde. Alors j'ai la voix posée.
Il aime tout ce mec, j'ai mal au dos, c'est génial.
C'est incroyable, hein.
Il m'énerve.
C'est incroyable.
Alors moi, j'étais une fois à un salon de livres à côté de vous, Cali. Et alors, il y avait des femmes qui défilaient. Mais incroyable quand même. Et chaque fois, des déclarations. Non, mais bon, vous n'ayez pas l'air gêné. J'étais à côté de vous tout l'après-midi. J'ai vu je ne sais combien de femmes arriver complètement énamourées de tous les âges.
Et il y a combien de mecs qui sont venus pour vous alors ?
Rien du tout.
Ah, voilà. Ce n'est pas vrai. J'étais à côté de vous, ce n'est pas vrai.
C'est la sécurité qui filtre, c'est sûr.
Non, mais c'était incroyable quand même. C'est vous attirez les femmes quand même.
C'est... Mais c'est parce que quand on est chanteur, on se plaint beaucoup. Et c'est un jeu formidable, mais c'est vraiment ça. C'est le métier absolu pour dire j'ai besoin d'amour. Alors on crie j'ai besoin d'amour. Si j'étais banquier, je me verrais pas monter sur la table et crier j'ai besoin d'amour, quoi. Ouais, voilà. Et donc quand on a besoin d'amour, les gens le ressentent et puis ils vous en donnent, souvent.
Il y a quand même eu cette fêlure quand vous étiez petit. Oui. Vous avez perdu votre maman quand vous avez 6 ans, qui était directrice d'école. Vous dites si je n'avais pas perdu ma mère, je serais sans doute devenue enseignant. Cali, oui, vous pensez ça vraiment?
Je le pense parce que c'est pour moi le beau métier du monde, c'est instituteur de cours préparatoires. Je suis fasciné par ces gens qui donnent leur vie pour offrir la lecture et l'écriture. Ma maîtresse d'école s'appelait Madame Caz au CP. Et j'ai réalisé qu'elle a passé 40 ans sa carrière et en moyenne de 30 élèves par année. Donc elle a donné la lecture à l'écriture et l'écriture à 1200 enfants qui sont partis après faire leur vie. Je trouve ça, c'est une source merveilleuse, c'est le plus beau. Et je crois que si je suis chanteur, c'est parce que j'avais plus mes parents pour me dire...
Parce que votre père est mort aussi quand vous étiez jeune.
Oui, voilà, plus tard. Mais en tout cas, j'étais tout seul et j'ai suivi quelqu'un, c'est mon cœur, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, qui m'a dit, va sur la route faire le troubadour.
Alors Cali, on peut croire qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, mais il y a aussi de l'humour. Par exemple, quand vous parlez de lécher l'oreille des filles, vous dites, faut pas croire, j'ai une langue énorme. Les autres disent qu'elle ressemblait à un steak de langue. Non, avec le bout de la langue, je cherchais l'oreille pour aller me cacher derrière le lobe. Après, j'attendais, fallait être patient. L'ange encore jusqu'à l'essentiel, prendre le temps d'observer des yeux de fille. Si les paupières se fermaient, c'était presque gagné. Les phares grands ouverts, droit devant, valait mieux arrêter.
Ouais.
Il y a un vrai style, hein, quand même.
Et puis il y a des moments, alors moi je m'excuse de dire ça, mais il y a des moments qui m'ont vraiment fait pleurer, comme par exemple quand vous parlez du transfert de la tombe de votre mère, et vous dites, quand ils ont posé la boîte par terre, nous étions réunis à nouveau, papa et maman, et puis nous quatre, j'aurais presque pu lui parler, elle était juste là, 2 mètres à mes pieds, et je lui aurais dit quoi j'aurais commencé par, j'aurais sûrement parlé d'amour, pas possible, il paraît que ça peut tout entendre une maman ça sauve la vie.
Ouais. Et elle est émue, hein. Il faut dire que Anne, elle pleure en lisant un plan de métro. Hein, c'est pas...
Quand vous êtes adolescent, vous rencontrez par hasard, enfin, vous êtes à un concert de YouTube, mais vous rencontrez Bono dans les loges au moment où vous allez aux toilettes et vous discutez avec lui, vous signez un autographe et vous dites que ça a marqué votre vie, ça ?
Oui, parce que c'était le premier concert de ma vie, rock. Et c'était le 20 octobre 1984, je peux pas l'oublier. Et puis, non, j'ai eu très pipi et tout le monde attendait devant le Palais des Sports de Toulouse. Et moi, je suis parti tout seul derrière et j'ai vu Bono. Et il m'a regardé et il m'a laissé approcher comme ça. Et les seuls mots que j'ai pu lui dire, c'était Fabienne, Fabienne, Fabienne. C'était une fille dont j'étais fou amoureux. Donc cet homme-là ne me connaissait pas, mais il savait que j'étais amoureux de Fabienne. Ouais. Et j'ai pu. Aujourd'hui, je le croise et je le vois. Et quand je lui en ai parlé, il s'en souvient pas, évidemment. Mais ça l'a beaucoup fait rire.
Parce que et Fabienne va bien ?
Je pense que oui.
Vous l'avez aussi abandonnée, celle-là ?
Non, disons que c'est une fille. Alors j'en parle dans le livre. C'est-à-dire que l'amour fou à cet âge-là, celui qui déchire le ventre, on rentre chez soi et on pleure en écoutant Renaud. Et on se dit.
Vous
demain...
écoutiez quoi de Renaud ?
Ah, moi, c'était l'époque de l'album de Gérard Lambert. Là. Et vraiment, je me disais tous les soirs, demain tu vas avouer à Fabienne que tu l'aimes. Et jamais je n'osais le faire. Alors le problème c'est que je suis rentré dans cette prison qui est, on tombe fou amoureux mais on est son meilleur ami. Et donc ça peut pas se passer. Alors après les années ont passé, je n'ai jamais pu lui dire. Et puis grâce à la musique et à la chanson, j'ai fait des tournées. Et 25 ans après, j'ai revu Fabienne, qui est venue me voir en concert. C'est quelqu'un qui me dit, le directeur de la salle, Fabienne, enfin une dame est là.
Bonjour Cali, j'ai pris 70 kilos. Mais...
Justement, le même regard pétillant et tout. Et j'ai pu lui dire, j'ai dit, tu sais, il y a prescription, j'étais fou amoureux de toi. Et elle m'a dit, j'étais folle amoureuse de toi.
Non, c'est triste.
Non, c'est pas triste. Parce que elle a sa vie, j'ai ma vie et je suis tellement heureux. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est pas mal, c'est que quand on trébuche dans la vie, quand on a des problèmes, on peut s'accrocher à une chandelle qui bouge toujours parce qu'on n'a pas consumé. Elle existe toujours. On se dit, la fille est là, la Fabienne est là. On n'a pas consommé l'histoire. Donc elle existe. Moi,
bah
je trouve ça intéressant
de parler. Déjà, je serais votre copine, hein, votre femme actuelle. J'aimerais pas du tout cette Fabienne qui rôde là.
Non, 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 du tout. Il n'y a aucun souci.
Une chandelle, non, mais elle va te faire foutre une chandelle.
Elle a le don de briser l'émotion.
Ah, ouais, ça casse tout là.
C'est quoi ce truc de chandelle là?
Bah, attends,
c'est fini, c'est fini. Mais non, elle est. Non, 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 non.
Il y a deux secondes, elle était au bord des larmes. Et là, elle sort le fusil.
C'est fou.
Christine Miro a des questions à vous poser.
Christine prend un temps déjà pour se remettre de ce qui vient d'être dit. Oui, parce que maintenant j'ai un instant ludique à vous proposer pour vous permettre de décompresser après l'interview de Anne, hein, la Christine Ocraine d'Europe 1. Je vais vous proposer un petit QCM. Voilà, les réponses, en fait, ce que des titres de vos chansons. Et j'ai la pression de vous poser des questions parce qu'avec votre chanson C'est quand le bonheur, vous faites partie du CDCQCSDTT, le collectif des chanteurs qui se demandent des trucs, avec Stromae, Papa Outé, Christophe Maé, Il est où le bonheur, et bien sûr Patrick Juvet avec Où sont les femmes. Et dans votre chanson qui s'appelle Il y a une question, qui était sur votre premier album, vous vous demandiez combien il y aura de jours de deuil pour la mort de Johnny. Et est-ce que c'est pas parfois un peu dangereux de poser des questions dans les chansons, parce que des fois, une fois que les personnes ont la réponse, et ben on peut plus la chanter, parce que C'est quand le bonheur, ça reste métaphysique, vous pouvez la chanter tout le temps, alors que combien de deuil pour la Johnny, vous pouvez plus la chanter maintenant. Ça mettrait une mauvaise ambiance quand, comme là tout de suite par exemple.
Ouais, mais j'ai changé les paroles, je mets Kali à la place de Johnny maintenant. Donc
c'est vrai.
Bah,
ah
ouais. Parfois.
Ah c'est mignon.
On
d'accord.
met qui on veut en fait. Mais c'était vraiment un hommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de, il y a des journalistes qui m'ont appelé à la mort de Johnny par rapport à cette phrase là. Et pour moi, c'était plutôt un hommage, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement énorme, je me posais vraiment la question, combien de jours de deuil à la mort de Johnny.
Vous posiez la question en 2002.
Oui, c'est ça.
Et vous demandiez aussi, où vont les canards en hiver? Est-ce que c'était un hommage à Salinger ou pas?
C'est ça, où vont les canards quand il fait trop froid? C'était ça.
Je le savais.
C'était vraiment, bravo, c'est un hommage à Salinger.
Mais vous posez des vraies questions.
Ouais, c'est important parfois.
Quand vous posez des questions dans vos chansons, est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour vous donner les réponses? Parce que moi, je voudrais écrire une chanson qui s'appellerait Pourquoi ma fille ne dort pas. Est-ce que les gens vont m'écrire pour me donner des réponses?
Je suis sûr que oui.
D'accord, c'est-à-dire je vais faire ça. Mais vous pouvez peut-être l'écrire pour moi, parce que je n'ai aucun talent en termes de musique.
Non, mais là, avec l'influence que vous avez, la radio, très écoutée, si vous dites, par exemple, quand mon amie Olivia Ruiz a chanté La Femme Chocolat, elle recevait du chocolat partout, chez
d'accord.
elle, quoi.
Ouais. Donc il faudrait que j'écrive La Femme Lingot d'Or.
Non, mais c'est vrai. Et puis, mais c'est ça. Ah. Et une fois, je suis passé à la télé, j'ai juste dit que j'adorais les cathédrales, et que j'allais visiter les cathédrales, vraiment, quand je m'arrêtais dans des villes, mais comme tout le monde, peut-être. Et puis il y a une dame qui m'a emmené une cassette VHS où elle a passé toute l'année à enregistrer Jean-Pierre Pernaut, le journal de Jean-Pierre Pernaut. Et dès qu'il parlait de cathédrale, elle a enregistré. Donc chez moi, j'ai une cassette VHS de Jean-Pierre Pernaut qui parle des cathédrales.
D'accord. Eh bien, chers auditeurs, j'adore l'argent. Voilà. Bien, mais voici mon QCM avec donc les réponses, ce sont des chansons de vous. Alors, qu'auriez-vous envie de dire à Emmanuel Macron? Tes désirs font désordre, pauvre garçon, ou pensons à l'avenir?
Pensons à l'avenir, oui.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le couple? Le mariage, l'amour parfait ou tout ce qui ne reviendra plus?
L'amour parfait.
En amour, qu'est-ce que vous n'avez jamais vraiment dit? Fais de moi ce que tu veux, je te souhaite à mon pire ennemi ou tout va bien?
Tout va bien.
Kali, que peut-on vous souhaiter? L'âge d'or, la vie quoi ou la fin du monde pour dans 10 minutes?
La fin du monde pour dans 10 minutes.
On finit l'émission si ça vous dérange pas.
Si vous pouvez aussi arrêter de parler comme Fanny Ardant, ce serait sympa.
Je vois pas pourquoi vous dites ça.
Ah si, je fais un petit point route, c'est le milieu du questionnaire, vous vous sentez diverti?
C'est merveilleux.
D'accord. Vous êtes un petit peu impressionné par la qualité de mon travail ou...
Si, vraiment.
Un peu, c'est quand le bonheur, c'est maintenant, du coup.
Voilà.
Alors, quelle est la phrase que vous dites beaucoup en ce moment? Les beaux jours approchent, je ne peux pas pleurer plus que ça ou je vais arrêter de boire?
Je ne peux pas arrêter de boire et pleurer plus que ça.
Mais les beaux jours approchent.
Mais les beaux jours approchent.
Vous buvez, Kali?
Non.
Le malaise dans la chambre.
J'aime bien l'idée de célébrer des choses avec mes amis, ouais. Ça me plaît.
En partant, qu'allez-vous nous dire? Je m'en vais, je n'attends que la revanche, ou merci, j'ai passé un des plus beaux moments de ma vie. Je sais que c'est pas un titre de vos chansons, mais comme je me suis dit que vous alliez forcément dire ça, j'ai inventé.
Alors inventez encore autre chose alors.
D'accord. Enfin, je voulais vous dire merci avant de vous quitter, parce qu'il y a une phrase dans une de vos chansons qui est incroyablement belle et que j'ai toujours rêvé de dire à un homme, et du coup je voudrais qu'on l'écoute ensemble, c'est celle-ci.
Et pense à dire à ta mère que je ne l'aime pas, n'oublie rien s'il te plaît, casse-toi.
Ça et pour tout le reste, merci beaucoup.